Voilà, aujourd'hui, vous avez remarqué, nous fêtons le dimanche des rameaux, des palmiers, des branches arrachées, les vêtements étendus sur les pavés des rues de Jérusalem pour recevoir Jésus. Hosanna au Seigneur qui vient, c'est notre thème d'aujourd'hui. Et si la télécommande fonctionne, voilà, ça devrait fonctionner maintenant, voilà. Hosanna au Seigneur qui vient. J'ai trois textes tirés de l'évangile de Matthieu, le 21e chapitre, les versets 1 à 12. J'ai trois textes et je vous invite, l'un ou l'autre, de nous lire cette parole de Dieu à haute voix, s'il vous plaît.
Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant, il les laissera aller. »
Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait demandé. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus.
Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au Fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée, on disait « Qui est cet homme ?» La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. »
Qui est cet homme ? Hosanna au Seigneur qui vient. Comment nous aurions aimé, peut-être nous aussi, nous trouver au bord de ces rues de Jérusalem, ce jour-là, près de Jérusalem, pour voir passer celui qui était annoncé comme le Messie. Nous aurions apporté en guise des rameaux d'olivier, quelques branches, des châtaigniers, hein, ce qu'on trouvait chez nous à Nantes, ou des cerisiers, ou des amandiers. Et avec la foule, nous aussi, nous aurions crié « Hosanna au Fils de David, béni soit celui qui vient, Hosanna jusqu'au plus haut des cieux. » Oui, nous aurions crié « Hosanna » sans peut-être même savoir qu'est-ce que cela veut dire, mais... Qu'importe, cela ne sera pas la première fois que certains hurlent avec une foule sans bien savoir ce qu'ils disent. Vous imaginez un peu la fête. Cette rentrée triomphale de Jésus, les rues étaient pleines du monde. Une foule immense qui acclame le prophète. Qui est-ce ? C'est le prophète de Nazareth. Pour d'autres, c'était le Messie. Donc chacun regardait celui qui vient avec ses yeux et ses attentes à lui. Comme nous aurions aimé y être, de pouvoir dire, regardez, il est là, je le connais, vous savez, j'ai cru en lui, il existe vraiment, voyez, voyons. Au fait, qu'est-ce que le mot Hosanna signifie? Quand Imke dit, béni soit celui qui vient, le sens premier, voudrait dire sauve. Sauve-moi. Sauve-moi ou délivre-moi. Donne-moi ta victoire. Sauve-moi, délivre-moi. Donne la victoire. Hosanna. Donc la foule n'acclamait pas Jésus en disant chouette que tu sois venu, sois le bienvenu, super de te voir. Allô? C'était pas une acclamation. C'était finalement une exhortation, une prière, un appel. Sauve-nous, fils de David. Donne-nous la victoire. Sauve-nous jusqu'au plus haut des cieux. Mais sauve-nous de quoi? Hosanna! Criez Hosanna d'une manière enthousiaste. Sauve-nous, sauve-nous! Enfin que tu sois venu. Enfin, le moment est arrivé. On a tellement attendu et tu es venu, straight. Sauve-nous, mais sauve-nous de quoi? Pour les gens de l'époque de Jésus, c'était certainement de l'occupant romain, de l'envahisseur étranger, de la force ennemie et destructrice. Et pour nous, aujourd'hui, sauve-nous, Jésus, fils de David, donne-nous, donne-moi ta victoire. Sauve-nous, sauve-moi jusqu'au plus haut des cieux. Sauve-moi, mais de quoi? Sauve-moi du chômage? Sauve-moi de mon désespoir? Sauve-moi de la jalousie et de la haine? Sauve-nous de nos échecs personnels dans notre vie? Des cibles que nous n'arrivons pas à atteindre? Délivre-nous de ce qui est notre vie à de l'absurde. Oui, sauve-nous, Seigneur, donne la victoire, règne enfin. Oui, comme nous aurions aimé, n'est-ce pas, être sur ce chemin qui conduit à Jérusalem pour crier Hosanna au nom de celui qui vient. Pour ma part, je bénis le Seigneur de m'avoir épargné de cette épreuve. Parce que je serais tombé dans un piège. Car au bout du chemin, que Jésus commence juste dans son entrée à Jérusalem, où il manquait que les caméras des télés, qu'est-ce qui se trouve à la fin de ce chemin? Si on le proclame roi, qui devrait venir sauver? De quelle couronne sera couronné ce roi qu'on acclame? Au bout de son chemin, sa couronne sera d'épines, son sceptre un fouet sur son dos, son trône sera une croix dressée avec ses mains et ses pieds cloués dessus. Et là, au pied de la croix, sur le mont Golgotha, où le roi est élevé, plus personne pour l'acclamer. Seuls quelques-uns pour l'insulter au lieu de l'acclamer. Seuls quelques-uns pour se moquer de lui. Si tu es celui qui est promis, si tu es le roi des cieux, mais descends de ta croix et sauve-nous! Même ses disciples vont fuir loin de lui. Parce que lorsque la croix se dresse à l'horizon du chemin de l'entrée triomphale à Jérusalem, il n'y aura plus personne pour l'acclamer. La veille, même pas un seul pour veiller, prier une heure avec lui, dit Jésus. En Marc chapitre 14, 34. Car le Messie que la foule attend et acclame, c'est plutôt un Messie, un restaurateur de la royauté, un restaurateur qui libère du peuple et chasse l'occupant romain. C'est ça le Messie qu'ils attendent. C'est pas un Messie qui va les sauver de leurs péchés, de leur propre perdition. Ils veulent être sauvés de ceux qui considèrent oppression dans leur vie. Tout ce qui gêne, tout ce qui est désagréable. Retrouver notre ancienne gloire, retrouver notre vie antérieure. Bref, c'est un sauveur politique qui est attendu. Hosanna, sauveur politique qui nous sauvera de l'occupant. Hosanna, ou celui qui est fort et puissant. Qui ne laisse pas condamner. Et surtout pas qui se laisse clouer sur une croix. Où est ta puissance? un messie à la Charles de Gaulle, entrant dans Paris avec sa division Leclerc le 19 août 44, qui marque ainsi la fin de la bataille de Paris et aussi 4 années. Qu'est-ce que ça change, un anniversaire, un seul. Et qui finit finalement 4 années d'occupation nazie sur la capitale française. Oui, un Charles de Gaulle serait le bienvenu. Un messie, un libérateur. Celui qui restaure l'ancienne France. Voilà ce que veut la foule. Voilà ce que nous voulons. Force, puissance et gloire. Pour que nous puissions être libérés. Comme le Messie que nous attendons est le plus souvent celui qui nous sauverait comme d'un coup de baguette magique. C'est ça ce que nous attendons, n'est-ce pas, de Jésus. Jésus fait quelque chose. Fais vite. En toi, c'est la puissance, n'est-ce pas? Sauve-moi! Vite! Comme un coup de baguette magique. Sauve-nous des difficultés de toutes sortes. Sauve-moi de mes fragilités, de mes incertitudes et de mes craintes. Et surtout, sauve-moi de mes angoisses. Baguette magique. Jésus sauve. Sauve-moi de ma maladie. Sauve-moi de tout ce qui me fait perdre pied dans ma vie, dans mon couple, dans ma famille, dans mon église. Ou dans mon destin, tu cours. Les disciples de Jésus et la foule s'accrochent à leurs attentes personnelles parce que Jésus interviendrait directement pour résoudre tous les problèmes. Jésus est là. Fini mes problèmes. Super. Hosanna. Enfin, tu es arrivé. Résoudre tous mes problèmes. Hosanna. Nous aussi, nous attendons des interventions de Dieu dans notre vie. Des intentions de Dieu qui répondraient plutôt à nos désirs, nos besoins premiers, plutôt d'écouter ce que Dieu veut, de quoi nous soyons sauvés, où se trouvent mes vrais problèmes. Quel ferait blocage entre moi et lui? De quoi il pourrait me sauver? Je prie plus facilement « Sauve-moi » que écouter le Seigneur et lire sa parole, à savoir de quoi il veut me sauver. Je dois simplement écouter mes propres prières, qui sont plutôt tournées à des demandes, des requêtes, plus que vers la louange et la reconnaissance. J'ai bien aimé ton témoignage tout à l'heure. C'était quand là que la joie est revenue? Quand je me suis entièrement abandonné au Seigneur. Sauve-moi Seigneur. Rentre dans ma vie. Change! Je voudrais que tu sois puissant. Sauve-moi jusqu'au plus haut des cieux. Et Jésus, assis sur son anneau, il reste là, muet, devant toute la foule qui l'acclame. Lui seul, à la vue de Jérusalem, dit l'évangéliste Luc, en chapitre 19, qui relate cette même rentrée à Jérusalem, il dit, Jésus, à la vue de Jérusalem, il pleure. La foule est en acclamation. Et Jésus, il pleure. Et personne ne le remarque. Parce que tout le monde est dans la joie. Et dans l'attente qu'il va faire quelque chose. Maintenant, pour moi. Mais tu es venu pour moi. Fais quelque chose. Il laisse la foule. Et les disciples à leur joie. Mais Jésus, il n'est pas dans la joie. Il est acclamé. Et au fond dans son cœur, il sait, ils se trompent de leur motivation. Moi, je suis venu pour mourir ici. Je suis venu pour vaincre la mort une fois pour toutes et le péché, pour libérer l'homme, pour qu'il puisse être réconcilié avec Dieu. Vous ne regardez uniquement ce que je pourrais faire dans votre vie. Vous libérez de ce que sont vos problèmes, vos bobos, ce qui vous fait mal, ce que vous aimeriez que ça change. Vous avez la moindre idée pourquoi je suis venu? Vous avez la moindre idée pourquoi je voudrais rentrer dans votre vie? Mais en quelques jours, tout va basculer. Parmi ceux qui ont vécu cette journée d'enthousiasme, bientôt ils vont crier « à mort, crucifiez-le ». Et ça, dans un laps de temps, de quelques heures, entre Hosanna, sauve-nous jusqu'au plus haut des cieux et, tiens, il ne le fait pas, donc, ça change de l'acclamation à la condamnation. Ses disciples abandonnent le maître tant aimé. Celui qui est acclamé va être trahi par les mêmes personnes qu'il acclamait encore. Parce que il n'a pas répondu à leurs attentes. Il n'a pas répondu à leurs attentes. Donc ils l'ont crucifié. Les disciples de la foule vont abandonner ce roi pourtant tant attendu. Seule la mort et la résurrection, le jour de Pâques d'ailleurs, vont le rétablir dans son statut royal du Fils de Dieu glorieux ressuscité. L'exaltation, la joie de cette journée des rameaux ont complètement aveuglé la foule et les disciples. Ils se sont trompés des vraies motivations de Jésus. Non, je ne suis pas venu pour être votre roi et libérateur. Je suis venu pour que vous m'accueilliez dans vos cœurs. C'est là l'entrée que je voudrais faire. Il sera toujours triomphal, toujours enthousiaste. Il ne faut pas se tromper d'adresse. Pendant les jours suivants, jusqu'à ce vendredi dramatique, leur exaltation s'est peu à peu effacée pour laisser la place à un doute profond. L'arrestation de Jésus interrompt cette espérance de rétablissement d'un nouveau royaume terrestre marquant la libération des Hébreux de l'occupant. Tu n'as pas répondu à nos attentes. Tu as déjà dit ça dans une prière. Jésus, tu n'as pas attendu à mes attentes. Si tu ne l'as pas dit, est-ce que tu l'as pensé? Entre les lignes de ta prière, les pensées que tu n'as pas osé te formuler dans une phrase pour le dire à Dieu, tu n'as pas répondu à mes attentes. Nos vies à nous sont elles aussi traversées de tels moments de joie, n'est-ce pas? D'exaltation intense, suivie des douloureuses périodes d'inquiétude, de questionnement, de désespérance de toutes sortes. Le monde s'effondre autour de nous. Et dans la souffrance, certaines personnes s'éloignent de Dieu. Peut-être vous en faites partie dans les problèmes de ta vie. Tu prendras distance avec ton Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'attend pas, il ne répond pas à tes attentes. Il ne vient pas à l'heure. Il ne fait pas ce que tu lui demandes. Pourquoi, pour qui Dieu tu te prends de ne pas vouloir répondre à mes prières, de tarder avec ton intervention? Et combien de personnes, peut-être nous-mêmes, nous remarquons que nous prenons distance. Un doute s'installe, une déception. D'autres au contraire se tournent vers lui, plus qu'ils vivent dans la difficulté, plus qu'ils cherchent le Seigneur, leur Sauveur. et crient toujours « Hosanna, sauve-moi !» Ça fait mal, Seigneur. Hosanna, délivre-moi jusqu'au plus haut des cieux. Seigneur, c'est insupportable. Hosanna, délivre-moi. Qu'est-ce que sont tes réactions à toi? Comment tu réagis? Éloignement, déception, doute ou au contraire? Dans les problèmes de ta vie, surtout dans ceux qui perdurent, qui continuent, est-ce que tu te tournes vers ton Seigneur ou tu dis, il ne vaut pas la peine. Il ne vient pas pour moi. Je vais lui tourner le dos. En tout cas, jusqu'à ce qu'il me réponde, par gentillesse, je me tournerai vers lui. Parce qu'enfin, il fait ce que je lui demande. Il ne faut pas se tromper. Quand Jésus rentre dans notre vie, lui, il va être le roi et le sauveur. Et lui, il saura de quoi me sauver. Et d'une manière ou d'une autre, je resterai sauvé, même dans ce que je concerne ma propre perte. Mes propres problèmes, je resterai sauvé. Je resterai délivré de mes doutes et de mes craintes. Pourtant, je dois pleinement les vivre. Je suis déjà délivré. D'autres doutent même de l'existence de Dieu dans leur vie, en constatant des drames qui les environnent et où Dieu n'intervient pas directement pour établir le bien. Combien de personnes, et je parle là de ses propres enfants, combien de chrétiens reprochent à Dieu de n'agir pas à temps et rétablir le bien tant attendu. Le mal, la mort, semble seul régner, Dieu est loin. Dans ces moments de désespérance, tout particulièrement, d'autres ressentent intensément la proximité de Dieu. Hosanna, enfin, tu es venu dans ma vie. Je souffre. Hosanna, enfin que tu es venu. Je pleure plus. Hosanna, délivre-moi, je pleure. Vous voyez les deux réactions? De qui feras-tu partie? Celui qui se tourne vers Jésus? Dans ce que sont tes prières et tes attentes? Ou est-ce que tu fais partie de ceux qui se détournent d'une manière déçue? Jésus n'a pas répondu à ma prière. Et pourtant, Dieu est toujours présent. Tu le ressens, tu le ressens pas. Tu le vois, tu ne le vois pas. Tu en as la certitude ou tu es dans l'incertitude complète. Dieu reste toujours présent. C'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Et parce que Dieu est présent, la vie et la joie pourront toujours de nouveau triompher si je l'accepte, cette venue de Jésus dans ce qui est ma propre peine. En Genèse chapitre 28, verset 16, il est question d'un jeune homme, Isaac. Il fuit son frère, son grand frère aîné, qu'il a trompé sur son droit d'aînesse. Et voilà, il n'est pas content et il les chasse. Et Isaac est en fuite. Et franchement, s'il se croyait tellement malin d'avoir gagné un droit d'héritage, parce qu'il a vendu la soupe à son frère aîné, voilà, il va très très cher payer cette injustice et cette manœuvre. Et dans sa peine, dans son angoisse, sur sa fuite, il fait un rêve, une nuit. Et il rêve d'une échelle qui à la fois touche la terre jusqu'au plus haut des cieux. Jusqu'au plus haut des cieux. Moi, franchement, je ne monterai pas, hein, j'ai des vertiges. Mais des anges, il voyait des anges à la fois monter et descendre. Comme une autoroute ciel-terre. Et à son réveil, il dit à lui-même, voilà. C'est certain, l'Éternel est en cet endroit. Et moi, je ne le savais pas. Tu sais Dieu avec toi ou tu le penses loin? Il répond à tes attentes ou il ne le fait pas encore. Ça n'empêche pas la présence de Dieu tout près de toi. Et peut-être tu ne le sais même pas. Bon, tu peux toujours être rassuré que tu ne sois pas le seul. D'autres connaissent des moments pareils où on ne ressent pas Dieu. Et pourtant, à cet endroit, même où tu es, dans la situation même que tu dois traverser, Dieu est là et voilà, tu le découvres. Peut-être à ton plus grand étonnement. Nous vivons ici, ce dimanche de Rameaux, un vrai paradoxe. Un vrai paradoxe. Comme notre vie aussi peut être parfois très paradoxe, elle aussi, n'est-ce pas? Comment donc un jour de victoire et d'acclamation, comment ce jour peut-il être au même temps un jour de joie et de souffrance? Joie pour la foule et de ses disciples et jour de souffrance pour Jésus. Parce que lui, il va à le bout du chemin. L'acclamation, ça va durer un temps, hein. Après quoi, l'arrestation et la crucifixion. On s'approche du ventre du Saint. On s'approche du jour de la croix. Comment donc un jour de victoire peut-il être au même temps un jour de joie et de souffrance à la fois? Le jour de la naissance de Jésus, vous vous rappelez peut-être les anges dans les cieux ont chanté pour les bergers dans les contrées de Bethléem. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Luc chapitre 1 verset 14. À présent, Jésus fait sa rentrée à Jérusalem. C'est la foule qui lui chante comme les anges. Paix dans le ciel et la gloire jusqu'au plus haut des cieux. Verset 38. Voilà ces deux entrées de Jésus. Une première entrée de Jésus dans ce monde. Et sa gloire est chantée jusqu'au plus haut des cieux. Et il rentre à Jérusalem. Il est acclamé une fois encore par cette foule, par les mêmes paroles. Ces deux rentrées de Jésus avaient pour motif l'amour de Dieu. Ce même amour qui a amené Jésus à être obéissant à son Père jusqu'à la croix pour racheter le péché du monde, donc le tien, pour payer le prix fort de nos péchés et sauver l'humanité du désespoir et de l'injustice. Voilà donc la solution du paradoxe. La source de notre détresse, c'est notre péché, qui est d'ailleurs aussi la cause de la souffrance du Christ. Mais la source de la joie, c'est l'amour du Christ, la raison même pour laquelle Jésus était prêt à s'offrir à ta place, à ma place. Et la puissance qui, par le sacrifice de la croix, remporte finalement la victoire sur le mal. Mais la victoire qui remporte la victoire sur le mal, c'est pas dans l'entrée de Jérusalem. Ça, c'est uniquement la grande porte qui mène droit sur la croix. Mais les gens ne veulent pas voir la croix. Eux, ils veulent avoir quelqu'un qui apporte solution à leurs problèmes. Ils ne voient même pas leurs problèmes. Leurs problèmes en singulier, le péché. De cette manière, nous pouvons toujours vivre ce paradoxe ce dimanche des Rameaux et peuvent toujours trouver la joie de l'amour infini du Christ, même au milieu de nos difficultés et de nos souffrances. Voilà, en conclusion, n'oublions pas qu'autour de nous, comme dans cette foule, des deux côtés de cette grande avenue qui mène à Jérusalem, n'oublions pas qu'autour de nous, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la foi, qui ne connaissent pas Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de leur vie. Pourtant, nous le connaissons. Nous, dans cette même foule, nous crions, Hosanna, je t'accueille avec joie, parce que je sais, tu es mon sauveur, je t'invite dans ma vie. Sauve-moi, délivre-moi. Vous en connaissez tous des voisins, vous connaissez tous des collègues, des amis, et même des membres de votre famille. Peut-être que ces personnes-là n'ont jamais entendu parler de ce motif premier de la venue de Jésus dans ce monde. Te sauver, te délivrer, t'apporter la victoire sur la mort et le péché. Peut-être qu'à travers des difficultés de leur vie, beaucoup parmi ceux que vous connaissez ont abandonné Dieu. Ils ont adopté une autre conception de la vie au gré des idées qui sont modernes à ce jour. Quelle que soit la raison, ils n'ont pas, comme nous, des branches, des rameaux dans la main pour acclamer Jésus, parce qu'ils ne connaissaient pas en tant que tel. Ils n'ont pas part à la victoire du Seigneur. Ils ne peuvent pas encore l'acclamer sauveur. Ils ressemblent à ces gens qui s'étonnent de la joie de ses disciples et de la foule et se demandent, mais vous acclamez qui là? Qui est-ce qui vient? Pour qui vous préparez le chemin? Y a-t-il une meilleure façon pour nous de célébrer cette semaine de Pâques, à la fois de sa mort et de sa résurrection, pour leur donner la réponse à leur question? Mais qui est-ce là en qui vous croyez? Qui est-ce que vous priez? Pourquoi vous courez vers l'église le dimanche? Pourquoi vous êtes chrétien? Pourquoi vous gardez l'espoir là où tout le monde perd l'espoir? Pourquoi vous tenez et croyez toujours contre toute apparence? Oh, qu'est-ce que j'aime ces questions. Qu'on me pose ces questions. Qui est-ce qui vient? Et c'est qui en qui vous croyez? Cette semaine du Vendredi Saint, croix, mort et résurrection. C'est une bonne occasion, une grande fête, même avec les jours fériés, en France, pour leur dire, pour leur partager notre foi. Si tu cherches une bonne occasion, emmène des œufs au chocolat ou des cloches. Mais ce n'est pas là le message. Le message est dans ce que tu as même vécu. Jésus-Christ est rentré dans ta vie. Désormais, il est roi. Désormais, il te sauve. Désormais, il te délivre. Désormais, il est puissant. Désormais, nous vivons de sa force, qui est la sienne. La meilleure façon, je dirais, de vivre ce week-end de Pâques qui vient, en parler avec d'autres. En parler. Et tu constateras que ta foi sera fortifiée presque dans la mesure que tu la partages. La victoire de Jésus est trop précieuse pour que nous la gardions pour nous. Prions. Seigneur, d'abord, je voudrais te demander pardon pour mes fausses attentes, pour mes appels nombreux, énervés, peu patients, te proposant presque même la solution à mes problèmes. Seigneur, je voudrais t'accueillir comme mon souverain. Oui, rentre dans ma vie et remplis-la. Apporte solution au temps venu. Choisis selon tes moyens à toi. Mais qu'est-ce que je suis content que tu sois là déjà. Je me sens sauvé, je me sais sauvé. Et je sais que je vais être délivré. Et si ce n'est pas pour ici et maintenant, ça serait pour un autre moment. C'est à venir que ma foi me porte jusqu'à là, Seigneur. Et que mon témoignage, Seigneur, puisse encourager d'autres pour se poser curieusement la question. Et une fois te trouvé et invité dans leur vie, Seigneur, ils vont t'acclamer avec nous. Tu es le Seigneur. Tu es le souverain. Tu rentres dans ton règne. Amen.